RFI. Grand reportage.
Un tiers de la population égyptienne vit sous le seuil de pauvreté, 5% de plus qu'il y a 4 ans, selon les chiffres officiels, longtemps reportés mais finalement diffusés durant l'été. La stabilité économique, c'était pourtant l'un des grands engagements d'Abdel Fattah el-Sissi, élu président en 2014. Dès lors, le mécontentement s'exprime malgré une répression féroce qui s'abat sur toute critique. En Égypte, pas de quartier pour les pauvres. Un grand reportage de Nadia Blétry.
Au volant de sa voiture, Ibrahim monte le volume de la radio. La voix des chanteuses égyptiennes l'accompagne toute la journée dans les rues du Caire, où il est chauffeur de taxi. Le paysage défile, des barres d'immeubles ferment l'horizon. Ibrahim porte un regard sans concession sur son pays. Avec un seul salaire aléatoire, pour nourrir une famille de 4 personnes, il dit assister au naufrage des quartiers populaires. Il a le sentiment d'avoir été trahi par le pouvoir en place.
Le gouvernement nous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Leurs promesses sont toujours des mensonges, de la fraude, de la manipulation. Ils nous demandent d'être patients. Ils nous disent encore 6 ou 8 mois, ou peu importe combien de temps. Mais ils nous mentent et nous font perdre notre temps. Ils ne font rien. Les dettes augmentent. Et c'est sur les citoyens ordinaires que la pression est la plus forte. Les gens sont pauvres et en plus, ils n'ont pas le droit de le dire. Les gens ne peuvent plus payer les loyers, ni l'électricité ou l'eau. Ils ne peuvent plus payer le gaz naturel. Les bonbonnes de butagaz coûtent maintenant 80 ou 100 pounds, alors que c'était 7 ou 8 pounds sous Morsi, le président précédent.
À grand renfort de sirènes, la police sillonne le centre-ville de la capitale depuis quelques semaines. Son but, se rendre visible et prévenir tout désir de manifester de la population. Ibrahim ne peut plus supporter les uniformes. Pour lui, ils sont devenus synonymes de corruption.
Moi, bien sûr, je hais la police. Comme tout le monde en Égypte, je la hais parce qu'elle nous traite mal. Elle agit avec nous comme si on n'était plus des êtres humains. Mais parfois, on est aussi en colère contre l'armée. Nous, on aimerait une armée qui s'occupe de ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire de sécuriser nos frontières. On voudrait que les militaires ne s'impliquent pas dans les affaires intérieures du pays, parce que ce n'est pas leur mission. Mais tu sais, l'armée ici fait des affaires. Elle a des parts dans les ponts, les routes, la nourriture, le poisson ou même les concombres. Elle est partout. Maintenant, quand j'ouvre un robinet, j'ai peur de voir un militaire en sortir.
Radel, lui aussi, est à bout de souffle. Pas à cause des cigarettes bon marché qu'il fume dans les escaliers du bureau où il est homme à tout faire, mais parce qu'il reçoit un petit salaire et qu'il est asphyxié par les dettes.
Je travaille ici dans un bureau. Mon travail, c'est de faire le thé et le café, de faire le ménage, ce genre de choses.
T-shirt jaune et jean serré, le trentenaire ressemble au jeune Kérod Branché, designer ou photographe, qu'il croise tous les jours dans les locaux où il travaille. Mais c'est son seul point commun avec cette jeunesse dorée de la capitale. Radel vit avec 2500 livres par mois pour couvrir toutes les dépenses de sa famille, soit un peu plus de 140 euros mensuels pour sa femme et ses 2 enfants. Vivre pour lui est devenu une question d'arithmétique.
Bien sûr, fumer est un budget, manger est un budget, se déplacer aussi. Et évidemment, mon salaire ne suffit pas pour ça. J'emprunte de l'argent. Et si je peux trouver un petit boulot le soir, je le prends. Mon salaire, c'est pour la location de la maison et les traites chaque mois. S'il nous reste quelque chose, on remercie Dieu. Et s'il nous reste rien, ben, on remercie Dieu aussi.
C'est désormais officiel, un tiers des Égyptiens vit sous le seuil de pauvreté, bien plus qu'il y a 4 ans. Radel et sa famille vivent avec moins d'1,5 € par jour et par personne. Impossible dans ces conditions de répondre à tous leurs besoins de base. Nourriture, vêtements, logement, éducation, santé et transport. Le soir, quand Radel retourne dans son quartier populaire d'Imbaba, il traverse les frontières invisibles d'un autre monde. Il retrouve sa bande dans un café où on fume la chicha. Des chaises en plastique rouge sont posées sur un chemin de terre. Les 5 amis vivent de petits boulots, certains sont diplômés chômeurs. Dans ce pays de 100 millions d'habitants, le marché du travail est saturé. Les cinq jeunes autour de la table se sentent déclassés.
Avant, il y avait trois classes sociales. Maintenant, il n'y en a que deux. La classe moyenne a disparu. Il ne reste que les pauvres ou les riches. Tout est devenu plus cher, mais nos salaires sont restés les mêmes. Et c'est la chose qui nous ennuie le plus. Avant, on avait nos salaires et les choses n'étaient pas trop chères. Tu pouvais quand même acheter ce qui te faisait envie. Maintenant, c'est terminé.
Adel et sa bande sortent moins. Quand ils ont contracté trop de dettes auprès du patron du café, ils disparaissent pendant quelques jours. Ils partagent tous la même impression, celle que leur situation s'est détériorée en 2 ou 3 ans. À peu près au moment où le gouvernement a mis en place des mesures d'austérité pour satisfaire les exigences du Fonds monétaire international. Si les autorités égyptiennes et leurs partenaires occidentaux se réjouissent de l'assainissement de l'économie, la population, elle, n'en voit pas de retombées positives. Mohamed et Karim, les amis de Adel, sont assommés.
Même les subventions que le gouvernement nous accordait sont en train de nous être enlevées progressivement. L'essence, le gaz, les bonbonnes de gaz et même les besoins de base, les pâtes ou le riz qu'utilisent tous les citoyens quotidiennement, il n'y a pas de soutien du gouvernement. Et même les médicaments, si tu veux te faire soigner, c'est sur tes propres économies, pas sur les dépenses de l'État. Pourtant, on paye des impôts.
Le gouvernement s'intéresse à autre chose qu'à sa jeunesse. Pourtant, si tu veux développer un pays, ce qu'il faut faire, c'est développer ta santé et ton éducation. La santé en Égypte en est vraiment un stade archaïque. Quant à l'éducation, nos élèves ne trouvent parfois même pas de chaises sur lesquelles s'asseoir à l'école.
Malgré leurs difficultés, Adel et ses proches n'ont pas conscience de vivre sous le seuil de pauvreté, car c'est une norme dans leur quartier. Ils s'adaptent comme ils peuvent et pour eux, ce n'est pas le plus grave. Récemment, ils se sont sentis profondément insultés par leur gouvernement. Tout a commencé au mois de septembre, quand un entrepreneur égyptien, exilé en Espagne, s'est mis à diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'homme d'affaires Mohamed Ali, qui dit avoir travaillé pendant 15 ans avec des militaires égyptiens dans le secteur du bâtiment, assure avoir été témoin de la corruption de l'État. Il met directement en cause l'armée et le président Sisi, qui construit des palais présidentiels quand sa population se noie dans les difficultés économiques. Au-delà de l'écho de ses vidéos, Adel a surtout été choqué par la réaction du chef d'État égyptien face à ces accusations. Une réponse qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.
À propos des palais présidentiels, oui, j'en construis et oui, je vais continuer à en construire. Vous croyez que c'est pour moi ? Je bâtis un nouveau pays.
Aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu le président dire qu'il construisait des palais. Mais moi, j'ai envie de lui dire, et pour nous, les Égyptiens, qu'est-ce que tu fais ? Nous, pour lui, on est morts. Il nous a enterrés. Qu'on repose en paix.
Les amis de Adel sont hilares. On a été contents de te rencontrer avant que tu ne te fasses arrêter, lui lance l'un d'entre eux. Une phrase qui n'a pourtant que l'apparence d'une plaisanterie dans un État qui a déjà enfermé 60 000 prisonniers politiques, selon les organisations des droits de l'homme. Fin septembre, des centaines de personnes sont descendues dans la rue dans plusieurs villes égyptiennes pour demander le départ du président Sisi. S'ils étaient peu nombreux à l'échelle du pays, les manifestants ont pourtant créé la surprise en bravant un État ultra-sécuritaire. Sur l'île de Warak, à quelques encablures du centre-ville du Caire, la population a manifesté 2 vendredis de suite. Ahmed était là. Il n'a pas participé à la mobilisation populaire, mais il a tout vu. Aujourd'hui, il a peur. Il donne rendez-vous dans un quartier huppé de la capitale qui lui semble moins surveillé. Dans l'habitacle de sa voiture, il se sent en sécurité.
Je ne suis pas allé dans la rue, je regardais de loin car je suis effrayé. Mais évidemment, je soutiens cette cause de tout mon cœur. Je suis avec eux parce que je soutiens la vérité. On veut un pays juste, on ne veut plus qu'un homme comme ça dirige le pays. Pendant les manifestations, j'ai vu des gens blessés par des balles à grenaille ou recevoir des gaz lacrymogènes. Devant moi, certains ont été blessés aux jambes. Quand quelqu'un sort dans la rue, c'est simple, le gouvernement dit que c'est un frère musulman ou un terroriste.
Après les manifestations du 20 septembre, plus de 3000 personnes ont été emprisonnées. Selon Amnesty International, il s'agit de la plus grande campagne d'arrestation depuis l'arrivée d'Abdel Fattah el-Sissi au pouvoir. Dans son association de défense des droits de l'homme, le CRF, Mohamed Lotfi a établi avec ses équipes la liste des arrestations des dernières semaines. La plupart sont des inconnus, de simples citoyens majoritairement jeunes et non politisés. interpellé pour avoir manifesté ou simplement pour s'être trouvé dans la rue au mauvais moment. Pour le militant des droits de l'homme, la répression a changé de nature.
Il y a eu une contamination des politiques répressives, c'est-à-dire qu'en 2013, la répression ciblait seulement les frères musulmans. Puis 2014-2015, ça s'est élargi à ceux qui voyaient que ce qui se passe est un coup d'État. Puis 2016, 2017, 2018, on a vu que l'étendue de la répression a touché aussi des partis et des groupes qui sont laïcs et libéraux. Maintenant, ceux qui expriment leur ras-le-bol, ce sont les citoyens. Toutes les pratiques de disparition, d'arrestation arbitraire, de répression des opinions, de l'opinion contre le gouvernement, ça touche maintenant toute la société.
Tout le monde est touché, mais les plus démunis subissent eux une double peine, selon Mohamed Lotfi.
Quelqu'un qui a besoin de subventions, qui souffre de la réduction des subventions de toutes sortes, ou du logement, réduction du logement social, ou autre. Cette personne-là est punie doublement. Cette personne-là est punie parce qu'il y a moins d'aide de l'État. Et s'il crie et qu'il montre sa dissatisfaction de ça, il est aussi puni parce qu'il se fait arrêter, il se fait accuser de terroriste. Mais c'est aussi, il faut le dire, parce que ce citoyen-là n'a pas d'avenue de s'exprimer et qu'il y a un manque de démocratie, que le gouvernement peut poursuivre toute politique économique sans que personne lui demande ce qu'il fait. Donc c'est un cercle vicieux de manque de démocratie et de paupérisation.
Dans les quartiers les plus défavorisés, l'État est moins présent. Les réseaux de solidarité sociale s'organisent autrement. La petite association caritative Kotouf El Khir se trouve dans un quartier déshérité du nord du Caire, au premier étage d'un immeuble un peu délabré. Sur le palier, les dalles ont sauté et du sable s'infiltre partout. L'association redistribue aux habitants du voisinage les dons qu'elle a reçus. Ils proviennent essentiellement de particuliers. La porte s'ouvre sur un petit appartement. Ici, chaque pièce est dédiée à des dons de nature différente. Des vêtements colorés d'enfants suspendus à des cintres, des livres scolaires, de la nourriture et même une pharmacie improvisée. Ce sont surtout des femmes qui viennent chercher de l'aide. Femmes seules, divorcées, veuves ou mères au foyer. Aïda El-Kharbaoui, la fondatrice de l'association, les accueille. Une dizaine d'entre elles sont assises dans l'entrée. Elles attendent. Dans les cas les plus extrêmes, les familles n'arrivent plus à couvrir leurs besoins alimentaires. Sur un comptoir, des sacs en plastique ont été préparés pour les plus précaires. Walid Aboubakr, l'un des responsables de l'association, vérifie le contenu des sachets.
Ce sont des sacs de nourriture qu'on reçoit de temps en temps dans l'association. Les contenus sont différents en fonction des dons. Là, on a du thé, un kilo de sucre, un paquet de riz, un paquet de pâtes. Et puis, on a juste aussi les portions qu'on donne en fonction de ce qu'on a reçu.
L'association de Aïda est un véritable laboratoire social. Tous les bouleversements qui touchent la société égyptienne sont condensés ici. Ces dernières années, la vie est devenue plus difficile et les économies personnelles ont souvent fondu. Les pratiques sociales se sont modifiées. On se marie moins, par exemple, en grande partie pour des raisons financières. Alors que les hommes sont censés fournir un appartement meublé à leur épouse, les femmes, elles, doivent se charger de l'électroménager. Chez Madame Aïda, de plus en plus de jeunes femmes viennent demander qu'on les aide à constituer leur trousseau. Et comme l'explique Madame Aïda, c'est problématique.
Le taux de mariage est beaucoup plus faible. Les gens sont prêts à renoncer à beaucoup de dépenses, mais le problème, c'est qu'il y a des choses dont ils ne peuvent pas se passer. Avant, un réfrigérateur, par exemple, ça coûtait 800 livres. Maintenant, c'est 2000. Du coup, avant, on arrivait à équiper 5 futurs mariés, mais maintenant, on ne peut le faire qu'avec une ou deux. Et puis ici, on a aussi remarqué que les cas de divorce sont de plus en plus nombreux, d'année en année. Et tout ça, c'est évidemment pour des raisons économiques. Les gens se disputent à cause des frais d'école, de la nourriture, des boissons, du coût de la vie. En général.
Multiplication des divorces, difficulté à se marier, mais ce n'est pas tout. On commence aussi à avoir des difficultés à enterrer ses morts, notamment parce que le prix des tombes et des caveaux a explosé ces dernières années.
En fait, la plupart des gens se préoccupent de leurs dépenses quotidiennes et de leurs besoins. Et quand quelqu'un meurt, alors c'est là que la question du cimetière se pose. Les gens se tournent vers des cimetières de charité.
Oui, surtout que la plupart des gens, comme ceux qui viennent ici, vivent dans des locations. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent avoir un caveau ou des tombes qui leur appartiennent?
Sur la porte de l'association, un panneau attire l'attention des visiteurs. Raïda le lit pour celles qui ont du mal à le déchiffrer.
Notification importante. Dorénavant, on vous donnera de l'argent mois après mois. Cette décision s'applique à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent au mois d'octobre. C'est valable pour tout le monde sans exception. Salutations, la direction.
En plus des dons en nature, l'association distribuait quelques centaines de livres à une centaine de familles. Elle n'a plus les moyens de le faire. Les donateurs sont aujourd'hui beaucoup moins nombreux que ceux qui attendent de l'aide. Madame Raïda en fait le constat impuissant.
La vie est très chère, donc les gens qui avaient l'habitude de donner aux associations sont moins nombreux qu'avant. Donc ça devient aussi plus difficile pour les associations caritatives.
Walid, le responsable de la communication de l'association, va prendre le pouls de la ville. Il se rend sur le petit marché du quartier pour discuter avec les habitants. Sur le marché, tous les prix ont explosé. Le transport de la nourriture coûte plus cher avec l'augmentation des prix de l'essence. Sur les étals, on trouve de tout, des fruits et des légumes colorés et appétissants, mais moins de clients. Le plus mal loti est sûrement le boucher. Il ne vend pas de viande, mais des abats, des pattes de veau. Des morceaux qui étaient considérés comme la viande du pauvre et qui sont devenus aujourd'hui, dans le quartier, des plats de nantis. Il écoute des chants religieux en nettoyant ses couteaux. Il a le visage fatigué et a du mal à contenir sa colère.
Écoute frère, je vais t'expliquer comment ça se passe. Avant, les gens achetaient un kilo, maintenant c'est moitié moins. Et encore, quand ils achètent quelque chose. Moi, tu vois, je suis boucher, ça m'arrive d'acheter de la viande pour mes enfants. Mais je jure sur Dieu que la viande n'entre plus chez moi et pourtant je suis boucher. Je jure sur le Coran que depuis l'Aïd, je n'ai mangé qu'une fois de la viande, c'était hier.
Devant un étal, une femme qui a peur de parler explique qu'elle a complètement changé ses habitudes alimentaires. Aujourd'hui, elle achète ses fruits et légumes dans les étals d'aliments pourris, car ils lui reviennent moins chers. Un vendeur s'époumonne. « Ne dis rien, c'est interdit de parler ». Aujourd'hui, en Égypte, la critique est impensable. Mais la vérité brute, la hausse des prix subie par la population, est elle aussi devenue taboue. Après les manifestations du 20 septembre, le gouvernement a annoncé que certaines catégories sociales pourraient à nouveau bénéficier de subventions. Reste encore à savoir comment sera appliquée cette nouvelle décision. Saïd Mahmoud a travaillé toute sa vie comme ouvrier journalier, dans le bâtiment. Il a eu 9 enfants. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il a réussi à se reconvertir. Il est bawab, autrement dit gardien d'immeuble. Concrètement, il dort sur un lit dans la cage d'escalier. Il y passe toutes ses journées, télévision allumée sur les chaînes pro-gouvernementales. Il répète inlassablement que, grâce à Dieu, la situation du pays est bonne. Il vient d'ailleurs d'entendre que le gouvernement comptait baisser le prix de l'essence. Il s'en réjouit, mais son cousin, venu lui rendre visite, calme son enthousiasme.
L'essence est moins chère, et en plus ils veulent aussi diminuer notre prix parce que c'est vraiment nécessaire. Ils diminuent seulement un quart de livre pour l'essence. C'est ce qu'ils ont dit, un quart de livre, mais ce n'est rien du tout.
Un quart de livre, c'est l'équivalent d'un centime d'euro. Les citadins ont souvent plus de pression financière que les habitants des villages, où les réseaux de solidarité sont plus forts et l'accès à la nourriture plus simple. Mais dans les mégalopoles de 20 millions d'habitants, comme le Caire, les plus vulnérables doivent souvent se débrouiller seuls. Saïd Mahmoud multiplie les petits boulots car sa fille a divorcé et il doit s'en occuper, comme de Ahmed, son petit-fils de 17 ans. Il a installé un comptoir de fortune dans le hall de l'immeuble où il vend tout et n'importe quoi pour améliorer le quotidien.
Moi, je veux devenir un footballeur célèbre. Je veux voyager pour réaliser mon rêve. Si Dieu le veut, en France, pour avoir la nationalité française.
Les rêves d'ailleurs sont largement partagés en Égypte. Par une jeunesse qui se sent asphyxiée dans un pays où elle ne trouve pas d'espace. Comme Ibrahim, le chauffeur de taxi, qui essaye d'échapper à la réalité en écoutant en boucle les mélodies des chanteuses égyptiennes.
Toute la République arabe d'Égypte a envie d'aller en Europe, de partir. Il n'y a pas que moi, personne ne se sent bien dans le pays. À part les artistes, les footballeurs, les acteurs, les danseuses du ventre, les procureurs, les officiers de police ou l'armée. Ça, c'est l'élite. Ça, c'est la République arabe d'Égypte. Et à part ça, il n'y a personne d'autre. Même les animaux qui vivent ici rêvent d'aller en Europe pour être bien traités.
En Égypte, pas de quartier pour les pauvres. Un grand reportage de Nadia Blétry. Réalisation Pierre Chaffangeon. Un magazine à retrouver sur le site de RFI.